experts Europe 1.
Les experts Europe 1, 15h-16h.
Elena Morna.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Céline.
Bonjour Elena.
Soyez les bienvenus chez les experts Europe 1, l'émission radio qui facilite votre quotidien. Alors à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Lord Robert Baden-Powell, samedi prochain, nous parlons aujourd'hui du mouvement qu'il a créé, le scoutisme. Un peu plus d'un siècle plus tard, on compte aujourd'hui 38 millions de scouts dans le monde, 150 000 en France. Un mouvement qui a connu des hauts et des bas, un mouvement qui s'est diversifié, catholique, protestant, juif, musulman ou laïque, mais un mouvement dont les valeurs restent fidèles à celles fixé par son fondateur, solidarité et respect de la nature, respect des autres aussi. L'objectif du mouvement était de développer les capacités physiques, mentales et spirituelles des jeunes issus de milieux sociaux culturels différents. La mission est-elle accomplie pour celles et ceux qui ont été scouts ou qui le sont encore aujourd'hui? On dit que le scoutisme est une expérience qui marque à vie. Est-ce le cas pour vous? Êtes-vous toujours fidèle à votre promesse? Quelles sont vos bonnes et vos mauvaises expériences? Que vous ayez été scout ou pas, quelle image en avez-vous? J'attends vos questions, vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. Hortense Ziftin et Roland Pérez, toujours prêts à servir leurs prochains, seront des nôtres. Scout un jour, scout toujours. Pourquoi l'expérience est-elle si marquante? Les réponses des experts maintenant sur Europe 1.
Les experts Europe 1.
Elena Morna.
Pour tout savoir sur le mouvement du scoutisme version 2014, je suis entourée de deux experts. Lou Bémont, journaliste au quotidien La Croix, notre partenaire qui consacre justement un dossier témoignage sur le scoutisme. Bonjour Lou.
Bonjour Elena.
Lou, L-O-U-T, comme un louveteau.
Exactement.
L-O-U-P, pardon.
Exactement.
Et Antoine Dulin, délégué national scout et guide de France. Bonjour Antoine.
Bonjour Elena.
Alors Lou, vous publiez justement les résultats d'un sondage sur l'image du scoutisme en France. Ce qui est étonnant, c'est que 65% des personnes interrogées en ont une image positive. Mais pour autant, 58% n'y mettront pas leurs enfants. Comment expliquer ce paradoxe?
Effectivement, il y a une espèce de paradoxe qui peut sembler un peu étrange. En fait, on voit que les 58% de Français qui ne souhaitent pas mettre leur enfant au scout, ça correspond aux Français qui ont du scoutisme une image un peu ringarde, un peu passée de mode. Mmh. Et donc, on peut se dire que l'un des freins, il est là. Le deuxième frein, il est sur peut-être le côté religieux. La religion agit un peu comme un repoussoir.
C'est vrai que beaucoup de personnes pensent que le scoutisme est un mouvement qui ne s'adresse qu'aux catholiques et qui a des connotations parfois militaires un peu rigides. C'est pas le cas? Voire limite facho pour certains groupes de scouts.
Alors c'est pas le cas, je pense que ça l'a jamais été. Alors ce qui joue sur l'idée un peu paramilitaire, je pense que c'est l'uniforme en réalité, et qui fait que voilà, le scoutisme
et la hiérarchie qui existe au sein des
voilà,
scouts.
Voilà, peut-être une forme de discipline aussi qu'il y a moins ailleurs, et donc je pense que ça joue pour cette image paramilitaire.
Alors on va juste refaire un tout petit peu l'histoire, pas trop longtemps, mais du scoutisme donc qui a donc commencé en 1907 avec un militaire britannique. C'est peut-être de là que vient aussi l'image du scoutisme un peu rigide. C'était donc Lord Robert Baden-Powell, je vais y arriver au moins une fois dans l'émission. Quels étaient les objectifs de ce mouvement à l'époque et qu'est-ce qui a changé depuis?
Alors,
Antoine,
les objectifs de ce mouvement, quand Baden-Powell revient de la guerre, il se dit ce qu'on a appris là. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui vivent dans des milieux et des quartiers populaires déshérités de la banlieue de Londres, et à la fois une incapacité de communiquer avec ceux qui habitent dans la banlieue riche de Londres. Et donc, il dit ces jeunes là, je vais leur apprendre une pédagogie, je vais leur apprendre une autre école de la vie. Voilà, ils sont peut-être différents. Il y a besoin de les aider à prendre des responsabilités, à découvrir la nature, à faire à apprendre des techniques, voilà, parce qu'au début
des techniques de survie
c'était au début ça. Et puis ce qui est rigolo, c'est que cette étincelle du scoutisme qui se lance en 1907, et ben tout d'un coup va devenir un feu à travers la planète, parce qu'il y a énormément de mouvements scouts et de guides qui se créent voilà à travers le monde. Aujourd'hui il y a plus de 167 pays qui font du scoutisme, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, 40 millions de scouts et guides. Et le scoutisme, depuis 100 ans, s'est adapté aux enjeux de la société. Alors il y a des traditions qui restent, notamment, vous l'avez dit, la question du respect de la nature, le fait que dans le scoutisme, on apprenne à vivre avec les autres, qu'on apprenne à vivre ensemble, qu'on apprenne à prendre des responsabilités, à devenir autonome. C'est dans ce scoutisme que, par exemple, on va faire nos premières fois. La première fois, on va faire la cuisine tout seul.
C'est un peu l'école de la débrouillardise aussi. Hein.
C'est une école de la débrouillardise. On aime bien dire aussi chez nous que c'est une autre école de la vie, complémentaire de ce que l'éducation de la famille et l'éducation apportée par le système scolaire.
Ce que j'entends avec ce que vous venez de dire, c'est que peu importe le mouvement, puisqu'il y en a plusieurs, hein, des mouvements religieux, alors aussi bien, je le disais tout à l'heure, catholiques, protestants, musulmans, juifs, que des mouvements laïques, mais tous ont des valeurs quand même communes.
Tout à fait.
Et la mixité sociale qui en fait partie d'ailleurs.
Tout à fait. Il y a un socle. En fait, cette méthode pédagogique, elle est vécue avec des bases qui sont vécues partout dans le monde, et notamment en France. On a des mouvements qui sont d'identité catholique, comme les scouts et guides de France, les scouts d'Europe ou les scouts unitaires de France, mais aussi d'autres mouvements qui font partie de la Fédération du scoutisme français, israélites, donc liés à la confession juive, protestants, les unionistes, les laïcs, les éclaireurs et éclaireuses de France, les scouts musulmans de France. Et tout cela, on a la même base, la même pédagogie qui permet à des enfants de devenir des citoyens actifs, utiles et artisans de paix. Et puis cette méthode, eh ben, c'est divisé en tranches d'âge. À partir de 6 ans, on peut commencer à faire du scoutisme, à aller dans les bois, à prendre des responsabilités et peu à peu à grandir et à faire des projets de grande envergure. Et j'espère qu'on en reparlera pendant toute l'émission.
On va en parler pendant toute l'émission et on en parle tout de suite avec Jean-Paul qui nous a contacté au 39-21. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Hélène, bonjour les experts.
Alors vous avez été scout, c'était dans les années 80, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Vous avez aujourd'hui
15 ans de scouting.
Ouais, vous avez aujourd'hui 46 ans. Comment avez-vous atterri dans une meute de louveteaux ? Est-ce que c'est votre maman ? Est-ce que c'est vous qui avez décidé d'y aller ? Comment et pourquoi ?
J'ai été un petit peu forcé par ma maman. C'était pas de gaieté de cœur que j'y allais au début. Avec une image pas forcément positive pour les raisons que vous avez évoquées avant.
Ouais.
Et en fait, j'ai trouvé toute ma place et puis... Et puis j'ai franchi des années, j'ai passé louveteau. Après j'ai commencé par les scouts de France et après j'ai rejoint un autre groupe qui est le scout unitaire de France.
Oui. Qu'avez-vous appris sur vous et sur les autres pendant vos années scouts puisque vous l'avez été pendant 15 ans ?
C'est surtout une grande découverte, on apprend chaque année des choses. Déjà on vit en groupe, mais pas un groupe renfermé, on est assez ouvert au monde extérieur aussi.
Ouais.
J'ai appris à vivre en nature, grâce au scoutisme j'ai visité des endroits que j'aurais jamais visité, j'ai fait des... On a monté des beaux projets. Et
des projets à but humanitaire, c'est ça ?
Alors ça m'est resté. C'est une fibre qui m'est gardée. D'ailleurs, aujourd'hui, surtout, je pense grâce au scoutisme, je m'investis beaucoup dans le bénévolat, dans les associations différentes. Et je vais faire ma promotion d'une.
Oui, allez-y, je vous en prie, Jean-Paul.
C'est la course du cœur, c'est pour le don d'organes.
Oui.
Donc, auquel je vais participer. Et il y a toute... ça s'appelle Transforme le site, et il y a toute une organisation derrière pour faire une course à pied. Donc le scout, c'est aussi du sport, qui part de Paris pour rejoindre les Arcs, 1150.
Alors, je me tourne vers les experts, ce qu'on entend là, et ça revient beaucoup dans les témoignages qu'on peut lire dans le quotidien La Croix. C'est quand on a été scout un jour, on l'est toujours. L'engagement dans le bénévolat ou même les choix professionnels marquent souvent, le scoutisme marque justement ces choix-là.
Effectivement, le scoutisme, c'est un univers où chacun a un rôle, chacun a une place dans la meute, dans la sizaine. Et donc, c'est une expérience qui marque indéniablement, quel que soit l'âge où on y est passé. On voit très très bien la chose dans les témoignages qu'on peut lire dans La Croix, que les gens aient 20 ans ou 95 ans, il y a une sorte d'attachement quasiment viscéral à ce mouvement et à ce qu'ils y ont vécu au cours de ces années.
Alors il y a Charles au 39-21 qui nous dit « Je vais avoir 90 ans et je suis scout, je suis toujours scout et on se réunit toujours entre amis. » Est-ce que c'est le cas pour vous Jean-Paul ? Est-ce que vous êtes resté en contact avec vos anciens potes scouts ?
Ah ben, on a un cercle d'amis, oui, on s'est gardé, on s'est jamais perdu de vue, on se revoit régulièrement. Et les sujets de conversation à chaque fois, c'est nos amis scouts et les bons souvenirs qu'on partage ensemble. Toujours dans la joie et la bonne humeur.
Ouais. Est-ce que l'appartenance à ce mouvement, c'est quelque chose qu'on met en avant ? Est-ce que, par exemple, vous l'avez inscrit dans votre CV ?
Ben, moi, j'hésite pas à le mettre dans mon CV, du fait que ça m'a permis de progresser dans ma vie personnelle. Dans ma vie, par le scouting, j'ai acquis une certaine expérience dans certains projets.
Est-ce que ça vous a donné confiance en vous ? Est-ce que ça, on parle de ça beaucoup. Est-ce qu'effectivement, ça fait partie des choses qui ont été efficaces pour vous, pour la mise en confiance, pour les responsabilités ?
Ben, de ce que vous disiez justement auparavant, c'est ce phénomène où on se responsabilise même assez jeune, hein, on n'est pas, c'est pas des chefs, mais on procède par étapes, on devient donc second, après saisonnier, ou alors chef de troupe pour ceux qui prolongent. Après, on est dans une période aussi charnière, il y a les études
à mener de
suivre en même temps. Ouais. Donc c'est vraiment un investissement personnel. C'est vraiment une grande volonté du chef de troupe.
Alors Antoine, vous vouliez réagir sur le scoutisme dans le CV ?
Oui, tout à fait. C'est intéressant. Aujourd'hui, on a des entreprises qui viennent nous voir en disant on a envie de recruter des scouts, des gens qui ont fait du scoutisme. Ouais. On sent que le scoutisme, il permet à des jeunes de se responsabiliser, d'apprendre de l'autonomie, mais également de manager. On a des témoignages de chefs et des cheftaines, donc les animateurs bénévoles de notre mouvement, qui vont donner plus de 500 heures par an. 500 heures, c'est énorme. Ouais. Un mois et demi par an pour faire grandir des enfants et des plus jeunes qui leur sont confiés. Ouais. Par les parents. Ouais. Ces jeunes responsables nous disent « Mais moi, j'ai appris dans le scoutisme quand je pars en camp pendant deux semaines avec des jeunes de 11 à 14 ans, je dois gérer le budget, je dois gérer les ressources humaines, à la fois de l'unité, mais aussi des jeunes, les conflits qu'il peut y avoir entre eux. Et puis, il va falloir que je gère aussi toute l'intendance, toute la logistique. » Et donc, ils vont développer un certain nombre de compétences, de talents, qui effectivement sont aujourd'hui très recherchés par le milieu professionnel.
Jean-Paul, est-ce que vous vous souvenez du jour de votre promesse et est-ce que vous y êtes toujours fidèle à cette promesse ?
Je m'en souviens très bien parce que c'est une belle cérémonie, une préparation, donc on s'investit. Et j'essaye d'y rester fidèle, c'est difficile. Mais
grâce à votre engagement dans le bénévolat et cette course à pied que vous allez faire pour Transform, c'est ça, on peut aller sur le site Transform, pour soutenir la cause.
C'est pour une noble cause, tout à fait.
Okay.
Mais ça, c'est un peu de scoutisme, hein, c'est tout à fait ça, c'est pouvoir donner aux autres. Donc,
Eh bien, merci pour ce très beau témoignage, Jean-Paul. Et vous, chez vous, quels sont vos bons et vos mauvais souvenirs de scout ? Faites-vous partie de ceux qui en ont une image positive, mais qui ne souhaitent pas y participer ou y mettre leurs enfants ? Si oui, pourquoi ? Qu'apprend-on chez les scouts ? Vos questions, vos témoignages au 3921 ou sur Europe1.fr. À suivre les déboires d'Hortense Dyftin sur Europe 1.
Les experts Europe 1.
Scoutisme version 2014. Que propose-t-on aux jeunes aujourd'hui ? La mission est-elle accomplie pour celles et ceux qui ont été scouts ou qui le sont encore aujourd'hui ? Elena Morna et les experts Europe 1. Pas attendre vos témoignages et vos questions au 3921 ou sur europe1.fr.
Hortense Dyftin fait partie des mamans qui apprécient le scoutisme. Elle pense surtout que c'est bon pour les enfants, enfin pour sa fille, mais pas pour elle. Bonjour Hortense.
Bonjour Elena, bonjour tout le monde.
J'ai une question. Je vous aurais bien vu cheftaine, éclaireuse, guide de France. Ça fait partie de votre histoire ?
Tout à fait. Non, parce que moi, ça y est, j'ai lu la croix et je vais envoyer ma fille au scout. Scout un jour, scout toujours. Hop, 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 je suis ravie. Je me demande pourquoi je n'y avais pas pensé avant.
Surtout cet accent de
bourge. Oui, parce que je suis devenue Marie-Chantal. En plus, elle avait déjà passé quelques après-midi au patronage à la paroisse de Sainte-Marie-des-Batignolles quand elle avait 5 ans. Elle avait adoré. Je m'en veux si vous saviez de ne pas avoir réagi plus tôt. Surtout que le principe du scoutisme correspond parfaitement. Enfin, pas à moi personnellement, je porte très mal le béret et le sac à dos, mais correspond parfaitement à ce que je veux pour ma fille. Déjà l'uniforme. En plus, elle est habituée.
Oui, mais c'est vrai toute qu'elle est déjà dans une école à uniforme.
Toute l'année, qu'il pleuve ou qu'il vente, elle porte un uniforme, une robe avec des grandes chaussettes. Donc ça ne va pas lui changer grand-chose. Au scout, elle sera en short avec des grandes chaussettes et des grosses godasses. On adore. C'est économique. Une tenue la semaine, une tenue pour le week-end. Et en plus d'être économique et pratique comme tenue, c'est hyper élégant. Elle est très élégante. C'est ce que j'ai dit à Pauline. Habillée comme ça, tu es parfaite. J'ai senti qu'elle doutait. Oui, parfaite pour aller chanter des chansons paillardes autour d'un feu de camp, allumer un barbecue, monter une tente et, comme le dit si bien avec humour Claude D dans la croix, nous manier un bout de ficelle. Hein ? Quel est l'intérêt de savoir manier le bout de ficelle ?
Oui, j'allais vous poser la question.
On ne sait pas. Mais c'est toujours bon de le savoir. Non, et puis je trouve que leurs valeurs sont tout à fait honorables. Hein. D'ailleurs, la promesse des Louveteaux, je promets de faire de mon mieux pour être fidèle à Dieu, à mes parents, à ma patrie et à la loi de la meute et de rendre chaque jour service à quelqu'un, à part un petit bémol sur l'histoire de la meute, on adore. Être fidèle à mes parents et à Dieu, c'est que ça se perd. Et puis, comme nous l'explique Marie-Thérèse, amie à moi, c'est grâce au scoutisme, à ce christianisme vécu qu'elle s'est engagée dans des associations pour vivre l'appel de l'évangile. Ouais. Moi qui adorais que Pauline finisse dans un couvent, si elle peut vivre grâce au scout...
C'est ou couvent ou gériatre.
Voilà.
Elle a prévu pour cette
ou les deux. Si elle peut vivre grâce au scout un éveil à la spiritualité, déjà, ça lui fera pas de mal, parce que l'ado est tout sauf spirituel. spirituel, on le sait. Et si en plus ça lui donne des envies de compagnonnage avec Jésus, mais on est ravis, mais que demande le peuple? Et puis, je ne sais pas, peut-être que comme Guy, elle découvrira le plus grand qui est en elle, ou la plus grande, je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris ce que voulait dire la phrase, mais je l'ai trouvée jolie.
Guy qui témoigne dans la croix, donc. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, merci Hortense, restez avec nous. Je pense que vous allez être ravis de toutes les explications qu'on va pouvoir vous apporter sur le mouvement scout. Quelle est l'image du scoutisme aujourd'hui? Quelle trace cette expérience a-t-elle laissé en vous? Êtes-vous fidèle à votre promesse? J'attends vos questions, vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. Tous à vos carnets de chant. Voilà la promesse de Grégoire sur Europe 1.
Tous les jours, 15h, 16h,
les experts Europe 1.
Elena Morna.
Une chanson qui dit beaucoup hein, sur le mouvement scout, Antoine, c'est ce que vous me disiez en l'écoutant.
Oui, c'est ça, et puis c'est intéressant parce que Grégoire et Goldman ont tous les deux été des anciens scouts, et on sent dans cette, voilà, à la fois la promesse, le fait de vivre en équipe, le fait de, dans la nature, cette dynamique de faire des projets ensemble en équipe, voilà, transparaît dans cette chanson, donc c'est un bel hommage.
Alors comment le scoutisme vous a-t-il aidé ou pas? J'attends vos questions et vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. Nous sommes toujours avec Lou Desmonts, journaliste à La Croix, et Antoine Dulin, des scouts et guides de France. Alors, je voulais qu'on parle aussi avec Franck, qui nous a contacté au 3921. Bonjour Franck.
Bonjour Elena, content de vous avoir au téléphone.
Ben moi aussi, je suis ravie. Alors Franck, vous avez une image plutôt positive du scoutisme, mais quelques freins par rapport à ces mouvements.
Oui. Bon, c'est-à-dire, justement, j'en parlais hier avec ma compagne. Bon, moi, très sincèrement, je suis mais pas du tout religieux. Et tout ça, ça m'agace. Voilà, je suis assez antipathique par rapport à ça.
Oui.
Voilà, maintenant je suis quelqu'un d'ouvert et bon, c'est vrai que ça fait un peu peur, ces côtés religieux, embrigadement, des idées qui sont pas forcément les miennes. C'est un peu ce que vous avez évoqué hein, sur l'aspect.
C'est-à-dire les idées qui sont pas les vôtres. Ah oui, alors
très à droite, voire à l'extrême droite.
Le côté un peu facho qu'on va accorder à certains mouvements scouts et le côté religieux. Donc déjà, ce que vous avez appris aujourd'hui, il existe des scouts laïcs. Maintenant, d'accord, les valeurs, vivre dans la nature, apprendre quoi, respecter les autres. Enfin voilà, tout ça, je pense que c'est des valeurs qui ne sont pas propres qu'aux personnes, qu'aux catholiques, aux musulmans.
Non, bien sûr, mais c'est ce côté-là, au contraire.
Alors, par rapport à l'image un peu psycho-rigide ou facho du scoutisme, d'abord Lou et ensuite Antoine.
Parce que ce que dit notre auditeur, c'est en fait typique de ce que révèle notre sondage. En fait, on voit bien qu'il y a une image globale qui est très bonne du scoutisme, et en même temps, le principal frein, c'est que c'est une activité en lien avec la religion.
Ouais. Et c'est plus en lien avec la spiritualité peut-être qu'avec la religion.
Alors sans doute, mais alors voilà. Et un des paradoxes, c'est que en fait, uniquement 4% des parents qui inscrivent leur enfant au scoutisme les inscrivent pour l'éducation spirituelle et l'éducation religieuse. Voilà, plus spécifiquement dans ce but-là.
Ouais. Antoine ?
Alors, à la fois, sur ces questions de religion, dire qu'il n'y a aucun embrigadement. On prend les jeunes comme ils sont, et nous, au sein des Scouts et Guides de France, on accueille beaucoup de jeunes qui ne croient pas en Dieu. Il y en a qui croient, qui sont catholiques, qui sont pratiquants, qui viennent de familles catholiques. Il y en a qui viennent de tout milieu, pour répondre un peu à Hortense sur le côté un peu sociologique et le scoutisme égale des bourgeois. Non, on voit bien, et vous l'avez dit tout à l'heure, le scoutisme, c'est aussi un lieu de mixité sociale, de vivre ensemble. Dans le sondage, on voit bien que tant les catégories socio-professionnelles élevées ou les catégories socio-professionnelles moins élevées, les milieux populaires, ont une image positive du scoutisme, mais il n'y a pas de différence là-dessus. Et donc, le scoutisme permet cette mixité sociale. Et sur l'aspect religieux, voilà, on prend les enfants comme ils sont. Ils peuvent être non-croyants, ils peuvent être croyants d'autres religions. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir découvrir d'être dans une dimension d'éducation globale. On ne peut pas se dire...
C'était ce que vous nous disiez sur l'objectif de Baden-Powell en 1907.
C'est ça, tout à fait. La spiritualité, c'est pas quelque chose qui est hors de l'humain. Et donc, développer la spiritualité d'un jeune, ça fait partie de son éducation globale. Et nous, on prend le parti, tous les mouvements de scoutisme, y compris le scoutisme laïque, qui développe une spiritualité laïque, de pouvoir donner à l'enfant, au jeune, des repères pour donner du sens à sa vie. Et c'est ça qu'on lui aide. Il n'y a absolument pas d'embrigadement, pas la volonté que les gens qui viennent dans nos mouvements soient baptisés ou quoi que ce soit. Vraiment une volonté d'ouverture et d'accueillir tout le monde, qu'il soit croyant ou non.
Alors Franck, vous vouliez réagir?
Oui, disons que effectivement cette image elle colle un peu à la peau du scoutisme. Mais moi, ce que je voulais aussi savoir, parce que comme justement on s'est posé la question hier soir en fait pour notre enfant, c'est est-ce qu'il existe des sites, des gens qu'on peut éventuellement voir, des associations, comment ça se passe en fait?
Alors c'est tout simple, il existe des sites d'associations, vous tapez scout sur Google, on a une fédération du scoutisme français qui regroupe 5 associations de scoutisme qui est présent sur toute la France. Les scouts et guides de France, c'est le mouvement le plus important aujourd'hui en France, on est 70 000 adhérents répartis dans 820 groupes locaux en France, dans les dom-toms et également dans quelques capitales mondiales, voilà, et ça nous permet de retrouver, et vous pouvez contacter ces personnes-là sur le site internet www.sgdf.fr, scoutetguide.fr.
Bon bah voilà Franck, comme ça vous aurez les infos, puis écoutez-nous jusqu'à la fin, vous aurez d'autres témoignages qui vous convaincront peut-être ou pas. Alors j'avais une question par rapport à La Promesse, c'est la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, celle de Grégoire et signée Jean-Jacques Goldman. Jean-Paul qu'on avait tout à l'heure au téléphone nous disait qu'il était investi dans une association, c'est le cas de nombreux témoins aussi dans La Croix, tous engagés professionnellement ou bénévolement. Quels sont ces engagements de cette promesse? Qu'est-ce qui fait qu'on y reste fidèle tout au long de sa vie, Antoine?
Je pense que l'engagement de La Promesse, c'est au départ quelque chose de personnel. Mmh. C'est le premier engagement qu'on fait dans sa vie, de dire, eh ben, je promets de faire de mon mieux. Tout à l'heure, Hortense a un peu fait rire autour de cet engagement, mais c'est vraiment de se dire, voilà, j'essaye de faire de mon mieux, de ne pas faire les choses à moitié. Quand je m'engage, de m'engager pleinement. Eh ben, pour beaucoup de gens qui sont passés par le scoutisme, c'est souvent la première fois où on leur a demandé de s'engager devant d'autres jeunes, devant leurs parents.
Cérémonial assez impressionnant, hein, parce qu'ils s'en souviennent tous. Hein.
Alors oui, un cérémonial, c'est un moment, c'est un rite initiatique. Et on sait que, on le voit bien aujourd'hui, que les enfants et les jeunes ont besoin de ces rites initiatiques, des moments de passage. Et donc la promesse en est un. Ils vont promettre de s'engager, ils vont promettre de respecter les autres, ils vont promettre de servir à la fois leurs prochains, ceux qui sont autour d'eux. Et puis ils vont promettre aussi de respecter la nature, qui est aussi une valeur très importante aujourd'hui.
Alors c'est Nicolas sur Europe 1 pour y nous faire, qui nous dit « J'ai été scout, il ne me reste pas grand-chose de mes périodes de scoutisme. Si ce n'est une seule chose, je n'ai jamais oublié mon engagement. Le scout s'engage à ne jamais faire son travail à moitié. Et lorsque j'ai envie de laisser un travail de côté, cette petite phrase me revient et du coup, je vais jusqu'au bout de mon travail. » Bon, ça fait aussi partie de ces empreintes marquantes à vie du scoutisme. On en parle avec vous et avec les experts Europe 1, 3921, europe1.fr pour vos questions, vos témoignages. Roland Pérez nous rejoint. Nous parlerons des assurances et de la formation des chefs et chef-ten scouts. À tout de suite.
Les experts Europe 1.
Scoutisme version 2014. Que propose-t-on aux jeunes aujourd'hui? Vous avez été scout? Quelle empreinte cette expérience a-t-elle laissée en vous? Vous avez une bonne image du scoutisme, mais pas pour vos enfants. Pourquoi? Elena Mornay, les experts Europe 1 attendent vos questions, vos témoignages au 39-21, c'est 34 centimes la minute ou sur europe1.fr.
Nous sommes toujours en compagnie de Lou Bémont, Antoine Dulin et Roland Pérez, toujours prêts à vous aider. Bonjour Roland.
Salut à tous.
Alors ça fait une demi-heure là presque qu'on parle du scoutisme comme un monde merveilleux. Pourtant, le mouvement a quand même été entaché de quelques scandales. Est-ce que tout est vraiment parfait dans le scoutisme? Moi, j'ai envie de dire, par exemple, il y a un des témoignages que j'ai adoré dans La Croix, d'un monsieur ou d'une dame, je suis un ancien scout, qui disait, ben voilà, moi j'ai appris à faire des ponts. C'est vrai, quand on est en raid comme ça et qu'on doit traverser une rivière, si on s'est trompé de chemin, on n'a pas envie de faire 4 km en arrière, on construit un pont. Eh bien, figurez-vous que j'ai été scout, j'ai construit aussi ce pont. Mais alors, dans ce monde un peu merveilleux, qui on faisait passer la première? Eh bien, on faisait passer un peu la bouc émissaire de l'équipe, quoi, celle qui était un peu plus grosse que les autres et qui passait avec son sac à dos pour tester le pont qui, évidemment, s'effondrait. Alors, est-ce que tout est vraiment si merveilleux chez les scouts? Antoine?
Alors, moi, je pense que vous...
J'avoue, je demande pardon à cette jeune fille.
Elena vient de faire son scouting out en direct. Elle vient de dire qu'elle avait fait du scoutisme.
J'en ai pas honte. Au contraire, ça m'a bien marqué aussi.
Je pense que c'est comme dans toute dynamique de mouvement de jeunesse et collectif, que ce soit à l'école ou que ce soit dans des groupes de jeunes, il y a toujours des phénomènes humains qui fait que, bah voilà, il y a un bouc émissaire. Donc il y en a aussi chez les scouts et guides de France et dans tous les mouvements de scoutisme. En revanche, nous, ce qu'on essaye, et on va en parler sans doute avec Roland, c'est de former tous nos bénévoles qui s'engagent, de les former à l'animation et à l'éducation des enfants et des jeunes.
En quoi sont-ils différents d'animateurs de colonies de vacances?
Ils sont différents, je ne sais pas s'ils sont différents, en tout cas ils ont même une formation qui s'appelle le BAFA, qui est la formation d'animateur, sauf que nous, les BAFA, on les organise en interne, à l'intérieur du mouvement, donc c'est des BAFA un peu de type scout. Les chefs et les cheftaines vont dormir sous tente, vivre des activités scout, donc ils vont vraiment être dans la pédagogie du scoutisme, dans la méthode, autour des projets, autour des conseils, on en a peu parlé, mais toute cette dynamique de démocratie, on parle beaucoup de démocratie participative en France, ben voilà, le scoutisme, c'est aussi un lieu de démocratie. Tous les enfants vont voter, par exemple, pour le projet qu'ils vont faire sur le trimestre. Ou, voilà. Et donc tout ça, toutes ces clés de la méthode scout, eh ben, on les donne aux chefs et aux cheftaines, à ces animateurs qui nous rejoignent, qui peuvent avoir fait du scoutisme ou qui peuvent nous rejoindre à partir de 17-18 ans, qui n'en ont jamais fait et qui vont trouver dans ce lieu un espace de responsabilisation. Et on leur donne des clés, on les accompagne tout au long de l'année. On a des bénévoles qui sont partout en France, qui vont les accompagner pédagogiquement pour que y ait une qualité d'activité de scoutisme qui soit vraiment au maximum, au top. Bien sûr, on ne pourra jamais éviter quelques dérives qui existent dans tout mouvement humain, mais en même temps, aujourd'hui, on le voit, le scoutisme est en pleine expansion et ça montre bien que on répond à des enjeux éducatifs.
Ouais. Justement, Patricia nous dit sur Europe1.fr, j'habite dans la banlieue parisienne. Pour mes deux garçons de 12 et 13 ans, le scoutisme, c'est l'occasion de sortir de la cité, d'être en contact avec la nature, d'avoir des responsabilités. Donc ça va dans le sens de ce que vous venez de nous dire, Antoine. Des objectifs et de décrocher de leurs ordinateurs, leurs jeux vidéo. Ils ne sont pas toujours très heureux de se lever à 8h du matin le dimanche, mais tellement contents quand ils reviennent. Leurs semaines de camp chaque été sont une récompense et je les trouve à chaque fois plus forts dans leur tête et dans leur cœur. Justement, ces semaines de camp, on va en parler parce que parfois, les camps, on fait des choses qu'on ne ferait pas avec nos parents ou qu'on ferait peut-être même pas en colo. Donc on construit des ponts, on est lâché dans la nature, dans la forêt. Et tout ça, est-ce que ça mérite quelques assurances particulières, Roland ?
Ah oui, c'est obligatoire l'assurance. Mmh. En fait, c'est même l'un des fondements de l'association. Il faut savoir que le scoutisme est organisé en association, loi de 1901. Donc on a ces premiers textes déjà qui permettent d'ailleurs à tous les membres et à ceux qui cotisent de pouvoir défalquer 66% de leur cotisation d'un point de vue fiscal, ce qui était déjà intéressant pour ceux qui veulent soutenir ou ceux qui sont tout simplement membres des organisations de scouts. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez les centres de loisirs et de vacances, la législation du ministère de la Jeunesse pour ces centres de loisirs et de vacances dont dépendent évidemment les scouts. Donc là aussi, il faut répondre à un certain nombre d'obligations. Vous savez qu'il y a une obligation de surveillance, de soins, de prudence. Il faut savoir que c'est quasiment que des mineurs, sauf pour les compagnons, je crois, au-dessus de 17 ans, la plupart de tous les sous-groupes, on va dire, des scouts, sont tous mineurs. Donc il y a cette obligation véritable de surveillance, de soins, de prudence, de diligence à l'égard des enfants. Donc il y a ce qu'on appelle une assurance de responsabilité civile qui est obligatoire et qui est l'assurance de base. Il faut savoir que votre assurance scolaire que vous avez pris pour vos enfants ne peut rien faire pour vous. Ouais. C'est une assurance spécifique qui est comprise généralement dans la cotisation que vous prenez. Donc là, vous êtes couvert. C'est-à-dire que quand on dit que les enfants sont couverts lorsqu'ils sont eux-mêmes victimes d'accidents corporels ou même lorsqu'ils sont à l'origine d'accidents ou de fautes qui pourraient être avec un dommage qui pourrait être causé à des tiers, eh bien tout cela est pris en considération dans cette assurance civile. Donc là, on peut toujours prendre des assurances complémentaires. Il faut savoir que les bénévoles aussi sont assurés dans la mesure où ils participent donc bénévolement et accessoirement à l'activité de ces camps et cela dans toutes les activités, que ce soit les jeux, les sorties, les excursions, la participation à des chantiers en construction, la pratique de tous les sports, sauf évidemment des sports dangereux comme les sports aériens ou même la plongée, où là il faut une assurance spécifique, une attestation médicale d'aptitude, enfin tout cela est parfaitement organisé, donc tout est prévu avec cette assurance et cette responsabilité civile obligatoire. J'ai vu, alors c'est pas le cas peut-être, mais j'ai vu qu'en Belgique même les enfants issus de familles qui ne seraient pas en situation régulière, qui n'auraient pas forcément
peuvent intégrer
le scoutisme. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en France.
C'est le cas en France. Ouais. On a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent, qui sont sans papier, et notamment des chefs et des cheftaines. Et voilà. Et donc, c'est aussi la possibilité de pouvoir accueillir.
C'est une des valeurs, d'ailleurs, déployées par le scoutisme.
Voilà. On accueille vraiment tout le monde.
Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que parfois, on se disait qu'il y avait une guéguerre entre les scouts unitaires de France, les scouts d'Europe. Il y en a qui étaient désignés comme des hippies, d'autres comme des fachos. J'aime beaucoup le message d'Evelyne sur le 3921 qui nous dit: mes deux enfants font partie des éclaireurs israélites de France. L'organisation a fêté son 90e anniversaire. Ils se sont réunis tous ensemble avec tous les scouts de France. En fait, il n'y a pas de frontières entre les différents mouvements.
Non,
la paix, l'amour.
Non, il y a de moins en moins. Il y a de moins en moins de frontières. Et d'une part, il y a les mouvements qui sont aujourd'hui reconnus par les organisations mondiales. Donc, ce sont les cinq dont j'ai cité tout à l'heure, avec les scouts et guides de France, les israélites, les unionistes, les laïcs.
Mais on sera tout à l'heure avec une unioniste,
voilà.
Justement.
Et les scouts musulmans de France. Puis, il y a deux autres mouvements catholiques qui sont très importants. Hein, les les guides et scouts d'Europe qui sont 29 000 et les scouts unitaires de France qui sont 25 000, qui sont aussi des mouvements d'identité catholique, sont pas reconnus par les organisations mondiales parce qu'en France, on reconnaît qu'une seule association par confession. Alors, il y a moins de guéguerres, mais ce qui est intéressant, c'est cette diversité des propositions. Elle répond à la diversité des familles et des attentes des enfants et des familles. Il nous arrive, par exemple, dans la dynamique catholique, d'avoir des parents qui mettent un enfant chez les guides et scouts d'Europe et un autre enfant chez les scouts et guides de France parce que la proposition va mieux lui correspondre ou il va avoir mieux avoir ses copains, etc. là-bas. Donc, on n'est plus dans une dynamique de guéguerre. Ce qu'on a envie, c'est que le scoutisme puisse bénéficier à de plus en plus de jeunes dans la société. Et c'est ce que montre le sondage La Croix. On a envie que toutes ces personnes qui ont une image positive du scoutisme puissent nous rejoindre.
Alors, on parlait des camps tout à l'heure et nous sommes justement avec Florence d'Aix-en-Provence qui nous a contacté sur la page Facebook des Experts Europe 1 et qui a été donc guide d'Europe à Aix. Bonjour Florence.
Bonjour Elena, bonjour les experts.
Alors on parlait des camps tout à l'heure avec Roland et les experts. Les camps, ce sont justement les moments qui vous ont le plus marqué. Pourquoi ?
Ben en fait, c'est vraiment un effet de groupe. En fait, on est avec des jeunes de notre âge. On est indépendants et on monte un petit peu notre camp ensemble. Donc c'est vraiment bien. On est lâchés.
Eh bien, merci beaucoup. Nous parlons du scoutisme avec les experts européens. Quelle image en avez-vous ? Si vous avez été scout, eh bien, qu'avez-vous aimé ou moins aimé ? J'attends vos questions, vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. Vous êtes nombreux à réagir au 3921 et je vais enfin vous donner la parole. Puis je vais arrêter de parler, je crois, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. À tout de suite.
Les experts européens. Scout un jour, scout toujours. Pourquoi cette expérience laisse toujours une empreinte? Quelles sont les différentes branches du scoutisme, les religieuses et les laïques? Vous avez été scout, est-ce une bonne ou une mauvaise expérience? Elena Morna et les experts Europe 1 tendent vos questions, vos témoignages au 39-21, 34 centimes la minute ou sur europe1.fr.
Toujours en compagnie de Lou Bémont, journaliste au quotidien La Croix, notre partenaire, et Antoine Dulin, délégué national scout et guide de France. Et nous sommes au téléphone avec Constance qui nous a contacté au standard Europe 1, le 39-21. Bonjour Constance.
Oui, bonjour Elena, bonjour les experts.
Alors vous êtes tombée dans le monde du scoutisme à l'âge de 8 ans, c'était votre volonté ou celle de vos parents ?
Je pense que c'était ma volonté, je vous avoue, je me souviens plus trop, mais mes grandes sœurs ayant fait la même chose, j'ai suivi avec grand plaisir.
Alors vous avez commencé par être louvette d'Europe, puis guide au SUF, les scouts unitaires de France. C'est quoi la différence entre les deux ? Est-ce que vous avez, vous, remarqué une différence ?
Alors, je l'ai remarqué, mais je ne sais pas s'il faut en tenir compte. Pour moi, les Europes ont été plus strictes que les SUF.
D'accord.
En fait, c'est tout à fait, c'est une question de mouvement.
Il y en a un, il y a Antoine là qui est en train de lever les pouces en l'air en disant voilà, ça c'est mon mouvement.
Non. On voit bien.
Ah, il sort la guitare.
On voit bien la diversité des mouvements. Moi, je suis scout et guide de France, donc c'est le troisième. On pourrait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien la diversité et qui correspond en fonction des familles.
Et on peut passer d'un à l'autre. Voilà, il y a aucun problème.
Peut-être que la sœur de Constance s'est bien plus au guide des scouts d'Europe.
Alors, dites-nous, Constance, qu'est-ce que vous gardez de ces années scouts ? Qu'est-ce que vous avez aimé ou peut-être un peu moins aimé ?
Alors, j'ai franchement que des bons souvenirs. Les meilleurs sont au guide et en tant que chef-ten. J'ai été chef-ten pendant 5 ans de petit louveteau. Donc, c'est ce qu'il y a de plus proche pour moi. Donc, c'est vraiment les souvenirs que j'ai sont plutôt en tant que chef-ten et de guide. Et les guides, là, je me suis quand même fait des amis très proches. Ouais. Ça permet une amitié quand même plutôt saine et solide. Et en tant que chef-ten, tout ce qu'on a pu apporter au louveteau et tout ce qu'ils ont donné en retour, c'était quand même quelque chose de très fort.
Est-ce que vous avez des enfants ?
Ah non, pas du tout.
Vous pensez en avoir ?
J'espère.
Est-ce que vous les mettriez volontiers chez les scouts ? Parce que justement, il y a ce paradoxe, beaucoup en ont une image très positive, mais n'y mettraient pas leurs enfants. Vous faites partie de ceux qui leur font vivre cette expérience que vous avez appréciée.
Oui, vraiment, j'espère qu'ils ont la même expérience que moi, tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup Constance pour votre témoignage. Je voulais maintenant qu'on parle avec Elsa Bounot. Elsa, elle est présidente des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, c'est donc le scoutisme protestant. Bonjour Elsa.
Bonjour Elena.
Alors, les éclaireuses et éclaireurs unionistes, ce sont combien de scouts aujourd'hui ?
Alors, les éclaireuses et éclaireurs unionistes, c'est 6000 personnes, à peu près 4500 jeunes de 8 à 18 ans et 1500 jeunes et adultes de 18 à 77 ans qui vont les encadrer, les accompagner.
D'accord. De jusqu'à 77 ans.
Non, c'est une formule. Probablement qu'il y en a des plus anciens encore. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes qui adhèrent au mouvement? Est-ce que vous reconnaissez dans les valeurs qu'on a décrites tout à l'heure?
Oui, évidemment. Je crois que vivre cette grande aventure qu'est le scoutisme, prendre des responsabilités, s'engager, rire, rêver, changer le monde, tout ça, c'est ce qu'on vit le week-end et pendant les camps.
Changer le monde, justement, Lou, c'est ce que dit l'un des témoins que vous avez interrogé pour La Croix.
Oui, il y a une volonté de changer le monde, il y a une volonté de mettre en avant des valeurs qu'on peut pas forcément vivre le reste du temps. Et c'est vrai que cette expression, le changer le monde, revient très très souvent dans les témoignages, effectivement.
Elsa, les scouts portent tous un uniforme, on en parlait tout à l'heure. Quelles sont les raisons de cet uniforme? Pourquoi est-ce que c'est important?
Alors, je crois que la tenue scout qu'il faut décaricaturer, c'est un peu comme au foot ou à la danse. En fait, c'est tout à fait en adéquation avec notre activité. Et puis, c'est ce qui nous permet d'avoir un sentiment d'appartenance, de reconnaissance, d'identification. Voilà, on fait tous partie du même groupe. Et on n'a pas un maillot de foot ni un tutu de danse. On a une chemise et un foulard, ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour aller courir dans les bois.
Et des insignes qui s'ajoutent au fur et à mesure sur l'uniforme, au fur et à mesure qu'on grandit chez les scouts. Ces insignes, c'est vrai, je vais revenir à cet aspect militaire dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que parfois ça s'apparente au grade des militaires. La hiérarchie, ces insignes, tout ça, c'est important dans le cheminement du scout?
En fait, ça sert surtout à marquer les étapes et les compétences qu'on a acquéries au fur et à mesure. On se valorise, on est reconnu par le groupe parce que petit à petit, on a appris des choses, on a grandi, on a mûri, on a pris des responsabilités et tout ça s'est reconnu, en particulier sur la tenue.
Est-ce que, Antoine, je me tourne vers vous, il y a un petit côté, on a dit que c'était l'école de débrouillardise, que c'était l'ouverture sur le monde, le respect de l'environnement. Est-ce que c'est aussi un peu l'école de la méritocratie, le scoutisme?
Je sais pas si c'est le terme le plus adéquat. Je dirais que c'est l'école des talents ou l'école d'émergence des talents. On a tous des talents et ce qu'on prend, nous, quand on a des enfants et des jeunes, déjà, ils se choisissent pas entre eux. Ils sont là dans une unité et puis, il faut qu'ils fassent ensemble, faut qu'ils montent des projets ensemble, des jeux ensemble. Et on va chercher à faire émerger chez chacun d'eux des talents. Alors, une compétence, et c'est un peu ce que vous appelez les insignes, qu'on on appelle des badges de progression. C'est-à-dire, il y en a un qui va peut-être développer la tendance de plus apprendre à faire la cuisine, d'autres qui vont être plus sur la dynamique de prendre soin des autres et va être infirmier pendant 6 mois, 1 an de l'unité. Donc ça ne veut pas dire qu'il va avoir toute la responsabilité de l'infirmerie, sauf que ce que ça veut dire, c'est qu'il va apprendre des choses autour de ça, de comment prendre soin de son corps, comment prendre soin des autres, apprendre quelques gestes de secourisme et puis après pouvoir aider les autres à tout moment de la vie.
Alors, ce que j'ai remarqué aussi dans les témoignages de La Croix, c'était une femme, alors si je me souviens bien, c'était en 1937, qui témoignait de sa période de scout. Et elle disait, en fait, on nous confiait à nous, les femmes, à cette époque-là, des responsabilités que la société ne nous confiait pas, ou que même nos parents ne nous confiaient pas. Et elle nous dit que ça a été pour elle l'occasion de s'émanciper. On est toujours dans ces valeurs-là aujourd'hui ou pas?
Oui, on est toujours dans ces valeurs-là. Et il faut voir que le scoutisme féminin, le guidisme, il naît en France un an après le scoutisme masculin. Donc on est au début des années 20, c'est quelque chose d'extraordinaire pour cette époque-là. Et pour revenir un peu sur l'uniforme, elle fait partie un peu de l'image d'Épinal du scoutisme et elle est l'une des raisons pour lesquelles le scoutisme a marqué les gens dans les années 20, dans les années 30. La popularité du scoutisme, elle est due à ce personnage en foulard, en culotte courte, qui arrive, que personne n'a jamais vu et qui tout à coup participe d'une extraordinaire popularité du scoutisme.
Oui. Elsa, juste un dernier mot justement. Est-ce que c'est important que les scouts ne soient pas mixtes et pourquoi ?
Qu'ils ne soient pas mixtes, mais ils le sont.
Non, tous, la plupart. Il y a mixité sociale, oui.
La plupart sont mixtes.
Ah bon ?
Ah oui.
Alors je me suis trompée.
Elena.
Moi j'ai toujours cru que c'était pas mixte, c'est justement ça. C'est ce qui était intéressant, que ça permettait aux filles parfois d'avoir leurs histoires de filles et d'être beaucoup plus libres, et aux garçons d'avoir leurs histoires à eux. Bon, je suis pas là en train de refaire la théorie des genres.
Mais par contre, c'est un vrai questionnement qu'on a aujourd'hui, nous, dans les mouvements de scoutisme, c'est de dire comment on éduque des garçons et des filles, quelles sont les spécificités que chacun A et dire qu'on les met en gros tas ensemble, c'est pas comme ça qu'on éduque à la mixité. Et que, alors effectivement, il va y avoir des propositions parfois qui sont de séparer les garçons et les filles, alors soit de 8 à 18 ans, soit de 12 à 16 ans, sur des tranches d'âge qui vont être un peu plus spécifiques. C'est une vraie question, celle de l'éducation, l'éducation des garçons et des filles. Et effectivement, vous parlez d'émancipation, et je crois que le vrai truc, il est là. C'est-à-dire comment on éduque ces jeunes au choix, la liberté de choix, la prise de responsabilité, tous quels qu'ils soient, en tant qu'hommes, en tant que femmes, et comment on en fait des citoyens épanouis, libres de leur choix, engagés, solidaires.
Ouais. Merci beaucoup Elsa, je rappelle que vous êtes présidente des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Antoine, vous voulez réagir?
Oui, juste sur la question de la mixité, nous on a un beau mot qui s'appelle la coéducation, comment on arrive à éduquer des garçons et des filles ensemble, et notamment voilà, dans tous les mouvements, même s'il peut y avoir des groupes où il y a des garçons et des filles ensemble, ils vivent par équipe, et ça c'est le principe de base du scoutisme, c'est l'équipe. Et là, les équipes, elles sont pas mixtes, elles sont d'un côté des garçons et de l'autre côté des filles, même s'ils partent encore ensemble, etc. Mais ça permet aussi pour chacun d'apprendre l'estime de soi. On en a peu parlé de cette question d'estime de soi. Vous parliez tout à l'heure
avec Jean-Paul, le fait que ça lui ait mis confiance, voilà, oui, l'estime de soi, c'est très important.
C'est très fort et on le sent aujourd'hui. Et voilà, on voit des parents qui nous disent, nous, on a envie que notre enfant il prenne confiance en lui. Ouais. Et c'est vrai que le mouvement de scoutisme génie de Baden-Powell quand il l'a mené, c'est vraiment ça. C'est, et ben, il y a des jeunes un peu plus âgés qu'eux, qui ont entre 17 et 25 ans, qui vont lui dire, je te fais confiance. Vas-y, va allumer le feu, va faire une ratatouille pour 25 personnes, va organiser un petit jeu pour des jeunes de 11 à 14 ans, ou va, par exemple, part en Corse, et on part ensemble en Corse et on va faire le tour de la Corse en Solex par petite équipe, et chaque soir on va jouer une pièce de théâtre pour tous les gens qui seront là sur la place du village. C'est
très,
ça aussi.
C'est très la méthode éducative anglo-saxonne, je dirais, qu'on trouve chez les Britanniques et chez les Américains, à savoir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, dénicher le talent en chacun et l'aider à grandir et lui confier justement les responsabilités que personne ne lui aurait confiées avant. Oui, ça restaure l'estime de soi. Alors, il est encore temps de poser vos questions et vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. Tout de suite, allez, on se retourne près du feu si chaud, du feu de camp si chaud, si bon. Allez, mais cette fois, c'est avec Benabar, un ancien scout, Effet Papillon.
Tous les jours, 15h, 16h,
les experts Europe 1.
Elena Morna.
On parle du scoutisme avec les experts européens et nous sommes maintenant avec Bertrand qui nous a contacté au 3921. Bonjour Bertrand.
Oui, bonjour Elena. Bonjour les experts.
Alors, ancien scout?
Oui, toujours ancien scout depuis très longtemps, dès l'âge de 8 ans comme louveteau chez les scouts de France, et puis ensuite chez les scouts d'Europe, scout, routier, et puis ensuite chef pendant de longues années, 5 ans chef de troupe, et puis chef de groupe à partir du jour où j'ai eu la chance d'avoir des enfants, et maintenant responsable départemental des scouts d'Europe en Seine-Maritime.
Oui, à Rouen. Alors, dites-nous, parce que vous nous dites que le scoutisme concerne aujourd'hui aussi le monde professionnel. Est-ce que vous rejoignez ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire Antoine nous parlait de certains chefs d'entreprise qui s'adressaient à différents mouvements scouts pour trouver du personnel. En quoi est-ce que le monde professionnel ou vos choix professionnels ont été déterminants par rapport à cette période de scout ou votre engagement chez les scouts?
Écoutez, moi, ce qui m'a frappé, en fait, tout au long de ma vie professionnelle, c'est que tous les talents que je pouvais avoir, toutes ces compétences, et finalement, je les avais acquises durant ma vie scout, dans mon enfance et dans ma jeunesse. C'est-à-dire, on apprend effectivement à prendre des responsabilités, à s'engager, à être loyal, finalement, à un responsable, à un chef, à organiser les choses, à planifier, à animer, à organiser des jeux ou des activités en forêt ou dans la cité. Vous voyez, donc, on apprend à faire des choses qui ensuite sont demandées aux chefs d'entreprise, sont demandées aux cadres, sont demandées à toutes sortes de métiers d'encadrement au sein de l'entreprise, où on a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui savent prendre des responsabilités et qui savent prendre des coups, qui savent être finalement première ligne.
Surmonter les difficultés. Justement, je me tourne vers Lou, parce que parmi les nombreux témoignages, plus de 500, que vous avez reçus à la Croix suite à votre appel sur les témoignages d'anciens scouts, vous nous dites que c'est vrai que dans les choix professionnels, beaucoup deviennent managers, justement, parce qu'ils ont ce sens des responsabilités, ce sens de l'autre, ou prof, quoi. C'est déterminant pour beaucoup d'entre eux.
C'est déterminant, et souvent, c'est les gens qui sont orientés vers des métiers de la relation, des métiers de l'autre. Donc, il y a des DRH, il y a des managers, il y a des profs, il y a des gens qui s'engagent dans l'associatif. Donc ça, c'est très marquant, parce qu'en fait, ils disent que c'est le scoutisme qui leur a permis de faire ce choix-là, qui leur a permis de se rendre compte qu'en fait, ils se réalisaient à travers l'autre, et ils devenaient meilleurs à travers les autres. Et ça, c'est une des valeurs du scoutisme. scoutisme qu'ils ont voulu porter dans leur vie professionnelle après.
Antoine, c'est aussi une ouverture sur le monde, hein, pour répondre à ceux qui nous disent que c'est un milieu un peu fermé. Non, au contraire, le scoutisme, c'est une vraie ouverture, une vraie fenêtre sur le reste du monde.
Oui, le scoutisme aujourd'hui est vraiment adapté aux enjeux de la société. Je l'ai dit tout à l'heure, on a aujourd'hui des listes d'attente dans certains groupes scouts. Il y a des familles qui peuvent pas inscrire leurs enfants parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, donc je fais un appel à tous ceux qui veulent nous rejoindre, s'engager bénévolement, des jeunes adultes qui pourraient nous écouter, de se dire, même si vous n'avez pas fait du scoutisme, vous êtes les bienvenus, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre, vous allez être avec d'autres jeunes, vivre ensemble et apprendre des responsabilités. Et ce qui est intéressant dans la dynamique aujourd'hui du scoutisme, c'est que tous les enjeux dont on parle, l'autonomie, la responsabilité, les questions de vie dans la nature, les questions de débrouillardise, du vivre ensemble, la cohésion sociale, le sondage de la Croix, la première raison, c'est apprendre, que mon enfant apprenne à vivre avec les autres. Ça dit quelque chose aujourd'hui de notre société. On voit bien que la société est en panne de liens sociaux, que l'école est peut-être démunie vis-à-vis de ce lien social et que des mouvements de scoutisme, mais comme d'autres, les colonies de vacances ou d'autres mouvements de jeunesse, les mouvements de scoutisme peuvent répondre à permettre à des enfants de différents milieux de se retrouver, de différentes religions de se retrouver, et non pas d'être dans l'affrontement, mais vraiment dans le vivre ensemble et dans la fraternité.
Je vous remercie Bertrand pour votre témoignage, et je voulais qu'on laisse la parole maintenant à Agnès, qui nous a également contacté au 3921. Agnès qui nous appelle de Troyes. Bonjour Agnès.
Oui, bonjour Léna, bonjour à tous.
Alors, on parlait de responsabilité, pour vous, effectivement, le scoutisme, c'est ça, ça responsabilise les jeunes, et ça a beaucoup compté pour vous ?
Exactement, oui. Alors, je rejoins tout à fait Bertrand qui intervenait avant moi, tout simplement parce que, comme il le faisait remarquer, moi, ça m'a vraiment aidé dans mes recherches d'emploi. J'ai fait des études supérieures, 5 ans de droit, et réellement, le scoutisme a apporté un aspect pratique à mon parcours que je n'aurais pas eu simplement avec mon diplôme de juriste. Et même au cours de mes études où j'ai eu à gérer 40 scouts, ça m'a appris à m'organiser, à mener plusieurs choses de front et à prendre réellement des responsabilités. Et aujourd'hui, si j'ai été embauchée là où je travaille, c'est pour cet apport-là.
Pour ces qualités-là.
Voilà. Pour ces talents-là que j'ai pu découvrir et développer dans le cadre du scoutisme.
Merci beaucoup. Juste une question. Êtes-vous toujours fidèle à votre promesse, Agnès?
Je tâche de l'être. J'essaye de l'être. Effectivement, c'est un objectif de chaque jour.
Vous vous souvenez du jour de cette promesse?
Oui, d'autant plus qu'il neigeait et que nous étions en culotte courte.
Donc voilà. Vous aviez les genoux bleus. Merci beaucoup pour votre témoignage. Écoutez, là, c'est vrai qu'on a explosé le standard. Effectivement, ça marche très fort. En tous les cas, ça laisse une empreinte indélébile, le scoutisme. Vous lancez justement une opération, Antoine, dont vous vouliez parler sur l'antenne d'Europe 1.
Voilà, le 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme. Et donc, depuis lundi, on a lancé un site qui s'appelle scoutunjour.fr, www.scoutunjour.fr, où on appelle tous les gens qui ont fait du scoutisme dans tous les mouvements de venir signer cet appel. Il paraît qu'il y a plus d'un million d'anciens scouts en France, donc on pourrait battre tous les compteurs et être un million sur ce site, et on vous permet de témoigner de ce qu'a apporté le scoutisme, avec l'objectif après de pouvoir faire un recueil de ces témoignages et de montrer comment le scoutisme a contribué à changer la société. Et parce que c'est aussi cette utopie du scoutisme, essayer de laisser ce monde un peu meilleur, comment les scouts et guides aujourd'hui encore essayent de changer le monde.
Donc c'est le scouting out.
C'est le scouting out.
Donc je l'ai fait aujourd'hui moi.
C'est ça, voilà. Elena, donc Elena, bientôt vous irez sur le site scoutunjour.fr, et puis tous ceux qui ont pu témoigner ou qui ont vécu cette expérience de scoutisme, voilà. Et puis bien sûr à tous ceux qui n'ont pas encore découvert le scoutisme, vous êtes les bienvenus, quel que soit votre âge. On accueille des enfants à partir de 6 ans, et puis après, même si vous voulez être bénévole et que vous avez dépassé les 17 ans, les 25 ans, les 30 ans, vous pouvez toujours rejoindre le scoutisme. Vous pouvez toujours apprendre à dormir sous tente et à prendre des responsabilités.
Ou à la belle étoile. Et vous pouvez retrouver de très très beaux témoignages dans le journal La Croix, qui donc publie un dossier spécial à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Baden Powell. Ce sera le 22 février, samedi prochain. Vous avez convaincu Céline, en tous les cas. Je crois qu'elle va en être.
Oui, je vais venir, et en tout cas, je vais penser pour ma fille. On vous retrouve demain, Elena, toujours prête pour parler de la jalousie fraternelle.
Impossible d'y échapper. Elle est peut-être saine ou parfois malsaine. Quand c'est le cas, comment la gérer ? Faut-il
peut-il le faire d'ailleurs? La jalousie peut-elle durer des années, toute une vie? Comment vivre dans l'ombre d'un frère ou d'une sœur à qui tout réussit? Eh bien, j'attends vos témoignages, vos questions au 3921, c'est la touche 3 pour le répondeur des experts, ou europe1.fr. Vous avez aussi notre page Facebook. Je vous laisse en compagnie de Laurent Ruquier et ses complices. Ils arrivent après les infos présentées par Pierre de Villeneuve. Salut!